C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 16 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ciel couvert, nuageux ce matin, autour de 12 degrés, prévoit un maximum de 19, mais surtout un dégagement, donc on a une pas pire de journée en vue. Quelques nuages en soirée, minimum de 8 pour la nuit. Samedi, c'est du temps ensoleillé, ça va se couvrir en après-midi et on prévoit des averses, probablement en soirée, tard et surtout dans la nuit de samedi à dimanche. Et dimanche, ben, c'est vraiment une journée de pluie, là, des averses. À peu près le même scénario pour lundi. D'ailleurs, pour la journée de dimanche, on prévoit probablement, je vous dirais autour peut-être en termes d'accumulation, là, de 15 à 20 mm de pluie. Et pour lundi, c'est un 15 mm additionnel. Puis on sait que les météorologues peuvent se tromper. On l'a vu cette semaine, mardi soir, là, avec le déluge qui a frappé plusieurs secteurs. Bon, le face-à-face hier soir sur TVA. Je l'ai écouté jusqu'à la fin, je vous dirais, un peu par obligation. Je vais vous faire entendre des extraits, puis on pourra en discuter longtemps, mais d'abord, j'aime pas la formule. Je comprends que c'est difficile d'avoir un débat à cinq, mais c'est tellement segmenté parce qu'on veut tout couvrir, puis je comprends, mais il n'y a pas de véritable échange. Ce qui amène les chefs à se lancer des flèches un peu préparées à l'avance pour marquer des points, ce qu'on appelle des liners. Et dès que le débat semble vouloir peut-être donner quelque chose, ben on est rendu ailleurs. Puis quand vous avez quoi, 4 minutes pour débattre à 5, je veux dire, c'est impensable. Et je sais pas si on va faire un sondage un jour, mais si je me fie à un commentaire que j'ai reçu depuis hier soir, là, les gens ont comme décroché à un moment donné, aussi en raison de la cacophonie. C'est désagréable comme téléspectateur, là, quand un puis l'autre se parle par-dessus l'autre. Pis c'est vrai au fédéral. Souvent, j'aime mieux un face-à-face, un contre un, une entrevue serrée où t'amènes les candidats à aller plus loin. Hier, en résumé, là, François Legault avait deux objectifs. Pas se fâcher, pas faire de gaffe et se pousser le plus rapidement possible. Il était la cible. C'est normal, c'est le premier ministre sortant. Les autres devaient s'établir comme étant la meilleure chef d'opposition face à Legault. Qui des autres est le meilleur pour offrir cette opposition nécessaire à un gouvernement de la CAQ. Je vais entendre quelques extraits des échanges, notamment le premier, là, entre Éric Duhaime, François Legault, sur la pandémie.
Monsieur Duhaime, moi je comprends que les citoyens étaient tannés des mesures, mais qu'un leader comme vous, pour gagner des votes, appuie pas les mesures, alors que tout le monde remet dans la même direction, vous avez tiré dans le fond de la chaloupe.
Monsieur c'est ça Legault, que vous avez fait, non, monsieur Legault, Duhaime. Je m'excuse, là,
c'est irresponsable.
Monsieur Legault, ce qui était irresponsable, c'est d'avoir géré une crise de façon non scientifique. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire sur quelle étude scientifique vous avez fait des couvre-feux au Québec?
Alors, premier exemple. Autre échange, cette fois entre Dominique Anglade et François Legault sur l'économie, la création d'emplois.
Faisons la comparaison avec votre ami Doug Ford. Vous avez créé 3 fois moins d'emplois que Doug Ford dans les derniers 4 ans. 3 fois moins d'emplois.
L'important.
Alors, vous vous faites battre par Doug Ford au niveau de l'économie. Non. Vous vous faites battre par Terre-Neuve au niveau de l'énergie. C'est en fait, vous vous faites battre sur tous les plans.
C'est faux.
Autre exemple. Entre Gabriel Nadeau-Dubois et Éric Duhaime sur les gaz à effet de serre.
Vous êtes sur une planète à part.
Non,
puis la vraie
sur la même planète, c'est que je pense que le Québec n'est pas déconnecté de la planète.
Nos enfants vont vivre, là, et c'est en train de s'en aller au yard.
Monsieur Nadeau-Dubois.
Moi, j'ai envie qu'on en prenne soin. Monsieur Duhaime, présentez-vous comme gouverneur du Texas. Vous allez être vraiment à votre place.
Moi, Monsieur Nadeau-Dubois, je vous insulterai jamais. Je n'irai jamais vous dire de vous présenter à Cuba, OK?
Ça, c'est le genre de ligne, tu comprends, que tu as dans ta poche, puis que tu essaies de placer dans la discussion, puis ça s'est fait de part et d'autre hier. Et puis, finalement, Paul Saint-Pierre Plamondon est le premier ministre concernant, bien sûr, la nécessité de protéger le français.
En tant que premier ministre du Québec, vous aviez le devoir de tout faire pour protéger notre langue, ce qui veut dire écouter les experts et les démographes. Les Québécois vous ont fait confiance sur la langue et vous les avez laissés tomber.
Vous pensez que la façon d'arrêter le déclin du français, c'est en empêchant les francophones d'aller au cégep en anglais. Moi, je pense que la façon d'y arriver, c'est d'augmenter le pourcentage des nouveaux arrivants qui parlent français.
Voilà quelques exemples des échanges hier entre les cinq aspirants au poste de premier ministre. Et je ne sais pas comment ce débat vous a influencé, si vous l'avez écouté, puis écouté jusqu'à la fin. D'un côté, ça peut réconforter les partisans, les gens qui ont déjà fait leur choix. Puis si on fait le tour rapidement, on peut dire que de façon globale, les chefs ont quand même défendu leur point de vue. Je fais abstraction là du format puis de la cacophonie. Monsieur Legault, qui était la cible, dans le fond, ce qu'il dit à Éric Duhaime, on n'avait pas le choix de prendre ces mesures-là pendant la période de pandémie. Est-ce que des mesures qui ont été inutiles? Je pense que le deuxième couvre-feu, là, on va convenir tous que c'était inutile. Et on peut convenir qu'en termes de bilan, malgré l'horreur de ce qui s'est passé dans les centres de soins de longue durée, d'autres endroits, je pense à l'État de New York, puis on peut regarder la Floride, des bilans de surmortalité quand même élevés. Je pense qu'on peut dire ça. Mais je comprends la frustration de beaucoup de gens suite à ces mesures. Puis je crois pas qu'il y a un Québécois qui aime se faire confiner, là, puis qui est heureux de dire les restos sont fermés, puis vous pouvez pas aller magasiner. Puis bon, il y a personne qui a aimé ça, je pense. Mais c'est de regarder ça dans une perspective globale de santé publique. Éric Duhaime représente un courant qu'il est important d'entendre. Des fois, je trouve qu'il a l'air de faire pitié en permanence, puis de jouer à la victime, mais il a quand même exprimé une vision. Puis on peut être d'accord, pas d'accord. Est-ce que c'est réaliste ce qu'il propose en termes de coupure? Est-ce que, quand il dit qu'il va mettre la hache dans l'aide aux entreprises, qui veut couper dans la masse, la taille de l'État, ben il y a bien des gens qui le pensent. Puis on le voit au fédéral avec Poilievre, là, il y a un courant. Puis il l'exprime de façon assez articulée. Madame Anglade, j'ai trouvé hier, personnellement, qu'elle s'était pas si mal débrouillée que ça. Elle traîne l'héritage du Parti libéral. Ça, c'est lourd. Et on pense aux dernières années. Et mon ami Lapierre me disait toujours, le problème avec le Parti libéral du Québec, c'est que le purgatoire n'a pas été assez long. Ils sont fait battre par le PQ, c'est un gouvernement minoritaire, puis ils sont rapidement revenus au pouvoir, alors qu'ils méritaient d'aller réfléchir, se définir et préparer, après 8 ans probablement, une alternative, toujours dans l'engrenage entre l'indépendance puis le fédéralisme. Là, ils sont comme désarçonnés parce que le débat, c'est la gauche et la droite. Pour ce qui est des deux jeunes chefs, M. Saint-Pierre Plamondon, que peu de Québécois connaissent, soyons francs, a sans doute marqué des points hier, minimalement d'estime, parce qu'il présente une vision, il est articulé, on peut débattre des idées, mais au moins ça se tient. Et on voit aussi l'expérience de Gabriel Nadeau-Dubois, même s'il y a des positions dans son parti qui sont cachées souvent, pas trop en parler. Quand vous lisez le programme de Québec solidaire, puis quand on me répond, mais là, M. Arcan, c'est pas tout de suite, c'est dans le deuxième mandat, mais c'est parce que c'est pareil ça, votre idée de base. Alors, oublions l'orientation. On a affaire quand même à des gens articulés. Mais moi, l'exercice, tel qu'on l'a vu, je trouve ça pénible. Parce que c'est pas écoutable. Puis Pierre Bruno a beau faire tous les efforts qu'il veut, fermer les micros, faire des rappels à l'ordre, ça tient pas, malheureusement. Alors voilà pour ce qui est du débat, puis chacun y va de ses commentaires, ses analyses, gagnant, perdant. En tout cas, on peut dire que par moment, c'était assez serré, mais on verra jusqu'à quel point le débat, puis l'autre qui s'en vient la semaine prochaine, peut influencer l'électorat. On disait que 30-quelques pourcents, le 34% des Québécois pouvaient encore changer d'idée et pouvait se faire influencer par le débat. Regardons d'autres nouvelles. Ce matin, dans le Journal de Montréal, dossier intéressant sur les immigrants investisseurs. On découvre que 80% des immigrants investisseurs quittent le Québec. Alors, ils arrivent ici, ils prennent des engagements, mais en 2018 et 2020, il y a quand même un exode massif. Ça veut dire quoi? Pardon, ça devient comme la porte d'entrée au Canada, mais décident pour toutes sortes de raisons d'aller s'installer ailleurs. Le ministre Jean Boulay a fait des modifications et on pense que cette fois-ci, on va être plus exigeant et qu'on va être capable de les retenir davantage. Mais on voit à quel point, que ce soit des immigrants investisseurs, que ce soit des réfugiés, que ce soit des gens qui viennent avec un permis de travail ou encore un permis pour étudier, c'est une société qui a besoin de gens venant de l'extérieur. Maintenant, quels sont les critères? Comment on les choisit? L'importance du français? Ce sont des enjeux majeurs. Et ça, je pense qu'il faut en débattre de façon civilisée, pas tomber, comme on l'a trop vu, là, dans des amalgames douteux puis dans des espèces de phrases qui créent des malaises chez beaucoup d'immigrants. Tu sais, quand t'es un immigrant, puis je vais vous donner un exemple là, de tous les courriels que j'ai reçus. T'as débarqué au Québec il y a 20 ans, tu parlais pas un mot de français. T'as travaillé, t'as bûché, t'as appris le français, tes enfants sont allés à l'école française, ils parlent français, ils parlent anglais, puis ils parlent leur langue maternelle. T'as un auditeur, là, je résume, puis c'est pas un cas isolé, là. Puis quand tu entends, exemple, M. Legault, dire que ça prend des gens qui soient dans la cohésion, c'est l'amalgame. Je sais, c'est excusé de le regretter, mais ça reste que ça touche et que ça blesse des gens qui ont fait des efforts. Puis d'apprendre le français, c'est une chose. D'adhérer à la culture, c'est autre chose. Et même les Québécois, les jeunes de souche, ça veut pas dire là qu'ils trippent uniquement sur la musique francophone puis québécoise. Fait que là, tu sais, je veux bien, là, mais il y a une réalité quand même culturelle. Puis qu'on fasse la promotion parfaite, là, mais on peut pas, là, se mettre des œillères puis penser qu'on va consommer que des produits culturels d'ici. C'est pas vrai. Pas vrai. Puis c'est pas comme ça. Puis c'est pas comme ça nulle part dans le monde. Alors voilà pour ce qui est du dossier de l'immigration. Les funérailles de la reine auront lieu lundi. Forte délégation canadienne avec M. Trudeau en tête, des anciens premiers ministres comme M. Harper, M. Martin. Grégory Charles sera du voyage. Michael Jean, bon, l'ancien gouverneur général, et d'autres personnalités canadiennes. J'ajoute également qu'il y aura une cérémonie à Ottawa. M. Mulroney va être présent, Ginette Reneau. Et tantôt, on parlera avec Philippe Bonneville parce qu'il y a encore des gens qui attendent des heures. Et il y a un Québécois à qui Philippe a parlé. Il est arrivé à l'aéroport d'Heathrow. Il s'est lancé vers la file d'attente qui s'étend sur 8 kilomètres et ça prend 11 heures. Je comprends qu'il y a des passionnés de monarchie, là. Je sais pas si vous auriez la patience d'attendre 11 heures. Moi, il me semble que c'est long, pas un peu, là. Mais ça, c'est une question de valeur, comme on dit. Un mot sur l'industrie de la restauration. Puis, il y a deux articles ce matin. C'est intéressant. D'abord, dans le Journal de Montréal, ce qu'on remarque, c'est que les fermetures d'établissements sont plus nombreuses que les ouvertures depuis 12 mois. Et que il y a des exemples où on a dû fermer ou réduire les heures en raison du manque de personnel. Ce qui amène des pertes de revenus là pour des restaurateurs. Puis on donne quelques exemples. Là, chez Bouillon Bill, qui est un restaurant sur Saint-Laurent, parce qu'ils peuvent pas couvrir, en termes d'heures d'ouverture, ce qu'ils faisaient avant, c'est une perte de 10 à 15% des revenus. Chez Gepetto, fermé jeudi et vendredi midi, c'est 100 000 piastres par année, disent-ils, perdre. On remarque aussi, puis je ne sais pas si c'est vous avez pu observer ça, c'est que au début, quand les restos ont rouvert, les gens se sont précipités. C'était pratiquement impossible d'avoir une réservation. Bon, il y avait toute la problématique du manque de personnel, mais tu sais, ça se battait pour les réservations. Puis on s'est rendu compte, je pense, que ça coûte cher, puis même t'as des petits déjeuners. Puis alors, je ne sais pas comment ça se passe dans votre resto, si vous êtes propriétaire de resto, si vous avez observé ça. Ça m'a l'air moins difficile. C'est comme si on est allé se rassailler au début, ça nous avait tellement manqué que là, on dit, bon, ben finalement, ça coûte un peu cher, puis l'inflation, puis ça, ben. Alors, est-ce qu'il y a moins de fréquentation? Et la presse ajoute à ce débat, si on veut, que les périodes d'achalandage dans les commerces du centre-ville ont changé. Les repas d'affaires, les séances de magasinage sur l'heure du midi ont maintenant la cote en milieu de semaine. Comme les gens viennent au bureau une fois ou deux, c'est souvent le mercredi où on décide, par exemple, de luncher parce qu'on est en ville ou d'aller faire des courses. Alors, changement dans les habitudes des citoyens. Et aussi vous dire que la Cour suprême qui siège à Québec, là, en fait, qui a siégé cette semaine, entend une cause d'un homme qui veut cultiver du cannabis à domicile à des fins personnelles, ce que la loi québécoise interdit. Alors, est-ce que il a le droit de faire ça? La Cour suprême va finir par statuer.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Pas besoin de faire la liste des événements de cette campagne électorale. Quand je dis événements, je parle de ces gens qui harcèlent sur les réseaux sociaux, des gens qui font des menaces de mort, des gens qui également tiennent des propos haineux. Et on a trouvé que le DPCP, donc la Direction des poursuites criminelles et pénales, avait une très bonne idée de donner des exemples concrets aux gens. Parce que souvent, on va dire, quand la police cogne à la porte, ben c'est une joke, je pensais pas que c'était si grave que ça. Et vous allez voir qu'il y a des exemples qui vont peut-être vous saisir un peu ce matin, puis vous envoyer aussi un message si vous êtes un adepte des propos cachés dans votre sous-sol et des propos haineux envers d'autres personnes, pas que des politiciens, mais il y a une limite à ce qu'on peut dire ou écrire sur des réseaux sociaux. Maître Patrick Michel est avec nous, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Maître Michel, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand. Je vous remercie pour l'invitation.
Ben, ça fait plaisir parce que c'est important de, je pense, expliquer aux gens là les limites de ce qu'ils peuvent faire, puis en même temps leur faire comprendre que ça peut leur causer un casier judiciaire si jamais ils franchissent une certaine limite.
Oui, effectivement, la liberté d'expression ne couvre pas, on ne protège pas les gens contre l'expression de menaces de violence. Et ce qu'on ne sait pas peut-être dans la population, c'est que ces infractions-là ont une portée très très large. Hein. Que ce soit des propos, des images, que ce soit des propos tenus devant des tiers, dans une rencontre privée, sur les réseaux sociaux, par courriel, boîte vocale, toutes ces formes de diffusion-là sont visées par l'infraction de menace. Et vous le disiez d'entrée de jeu, souvent les policiers se présentent à la porte et puis c'est bon, on entend c'était une joke ou j'ai fait ça sur le coup de la colère ou de l'impulsivité, ben c'est pas une excuse. Et comme je vous dis, l'infraction est très large parce que même si l'accusé, le contrevenant n'avait pas l'intention de mettre ses menaces à exécution, même s'il n'avait pas l'intention que ses menaces soient reçues ou crues du destinataire, même s'il n'avait pas l'intention que ça se rende même au destinataire, lorsque c'est des menaces prononcées devant des tiers qui ont aucun lien, aucun contact avec avec le candidat ou avec la personne qui est visée par les menaces, ça peut engager la responsabilité criminelle et amener des conséquences importantes, notamment un casier judiciaire, vous le savez, et selon la nature, la gravité de l'infraction, la durée de ce casier-là, ça peut varier entre 5 ans et 10 ans. Alors, ça, c'est en plus de la peine qu'on obtiendra devant le tribunal.
À quel moment ça devient une menace au sens de la loi?
Bon, ça va devenir une menace au sens de la loi dès que les propos... Il y a deux aspects, là. Il faut que les propos puissent être considérés comme une menace par une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. OK? Alors, c'est pour ça que je vous disais que même si le destinataire de la menace, lui, ne s'est pas senti menacé, si les propos pouvaient être interprétés par une personne raisonnable comme une menace, c'est le début, c'est le premier élément qu'on a approuvé pour démontrer la commission de l'infraction. Ensuite, il faut démontrer l'intention, ça peut être l'intention de susciter la crainte, mais ce qui est la subtilité, c'est que on peut aussi engager sa responsabilité criminelle sur la base de seulement l'intention d'être prise au sérieux. Et puis, un bon exemple pour l'illustrer, on en parlait hier, là, on y faisait référence hier dans nos capsules, mais peut-être avec plus de détails. Là, par exemple, un individu qui, pendant la pause au travail, devant ses collègues, en référence à un politicien, va dire « je vais aller chercher un 12 pour faire le ménage ». Bon. Il dit ça devant des collègues. Il s'attend probablement. La personne visée, je vais vous le dire, c'était le premier ministre, c'était M. Legault. Alors, il dit ça devant des collègues de travail pendant une pause. Il s'attend certainement pas à ce que ses collègues de travail contactent le cabinet du premier ministre là, pour livrer, disons, la menace. Mais le seul fait que ça a été prononcé et que les tiers l'ont pris au sérieux, cette menace-là, ben monsieur s'est retrouvé accusé avec une probation de 18 mois, 100 heures de travaux communautaires, quelqu'un qui n'avait pas nécessairement d'antécédent judiciaire. Et ça, il faut le dire, c'est souvent des personnes qui n'ont pas d'antécédent judiciaire. Il y en a là, qui en ont, mais il y a souvent des personnes qui n'ont pas d'antécédent judiciaire qui vont se retrouver à faire face au système de justice pour la première fois de leur vie en raison d'un écart de conduite.
Mais quelqu'un qui dirait, là, je vais aller chercher un 12 et je vais faire le ménage, puis une fois que la police arrive, qui dit là, écoutez, là, c'est une expression, j'avais pas l'intention, j'ai dit ça sur le coup de la colère, ça tient pas la route comme défense.
Non, c'est pas une défense. Non, effectivement, c'est pas une défense. En droit criminel, le mobile, là, les motifs pour lesquels on, mettons de dire c'était une joke, là, bon, j'avais pas l'intention d'être pris au sérieux et tout. Non, ça peut pas constituer une défense pour ce type d'infraction-là. Ce qui est important aussi, ce que les gens savent pas nécessairement, c'est que la menace n'a même pas besoin d'être destinée à l'égard d'une personne en particulier. La menace peut viser un groupe. Par exemple, on a un dossier là où sur Facebook, un individu va écrire, va falloir en référence au député de l'Assemblée nationale, là, va falloir qu'il arrive de quoi de grave pour qu'il comprenne. Et il va ajouter à cette publication-là un lien vers une vidéo YouTube de Denis Lortie à l'Assemblée nationale en 1994. Alors, les paroles en soi, tu sais, il va falloir qu'il arrive de quoi de grave pour qu'ils comprennent. Ça peut-être être susceptible d'interprétation, mais le fait d'ajouter un lien vers un vidéo, ça vient, disons, un peu plus contextualiser les propos. Et ça, monsieur a été accusé, condamné à une probation de 2 ans avec des conditions et susceptible de se retrouver à nouveau devant les tribunaux s'il contrevient à ces conditions-là.
Quand vous voyez ces individus qui comparaissent et, qui écopent de par exemple, des heures de travaux communautaires et même un casier judiciaire, est-ce que vous pensez qu'ils sortent de là, ils ont compris le message? Autrement dit, est-ce que les gens récidivent ou la leçon est assez forte?
J'ai pas de données précises que je pourrais vous partager là sur le taux de récidive de ces personnes-là, mais comme je vous dis, souvent ces infractions-là sont commises par des personnes qui n'ont pas d'expérience ou d'antécédents judiciaires. Alors, mon sentiment, c'est que ça doit envoyer un message quand même assez clair de prévention de la récidive.
Et on se trompe pas en disant qu'il y en a de plus en plus, ou en tout cas, il y a de plus en plus de plaintes et donc d'enquêtes et ultimement d'accusations?
Il y en a de plus en plus. Encore une fois, on ne tient pas de statistiques. Là. Nos systèmes ne permettent pas de donner des données, de fournir des données précises sur le phénomène à l'égard des candidats ou des élus. Mais écoutez, comme observateur, là, comme observateur de la société des phénomènes criminels, oui, on a la perception, le sentiment qu'il y a une certaine prolifération de ce type de menace-là. À l'endroit des élus, à l'endroit des candidats, à l'endroit de personnes qui exercent des fonctions publiques, puis à l'endroit de personnalités publiques en général.
Les auditeurs vont sans doute se poser la question suivante. Menacer un premier ministre, un chef d'opposition, un député, ou menacer un voisin, est-ce que la sentence, la peine est différente?
la sentence sera pas nécessairement différente. Sauf que j'aurais tendance à vous dire que c'est nous, je pense qu'on peut faire valoir que c'est un certain facteur aggravant, parce que menacer un politicien, un élu ou un candidat, il y a une certaine volonté de s'attaquer à la démocratie. Alors, ça peut avoir un impact sur un effet un peu pervers chez les politiciens et les candidats, de les brimer dans leur expression. Alors, et c'est ce que la Cour suprême dit, hein. Alors, la liberté d'expression, c'est une chose, mais en exprimant des menaces en réaction à un discours politique, on brime la liberté d'expression de ceux qui expriment leurs idées ou leur position politique. Alors, c'est une forme d'atteinte à la démocratie, et c'est un peu ce qui nous amène à faire cette publication hier. Bon, on se disait qu'en tant que institution indépendante là, du pouvoir politique, puis neutre par rapport au débat politique, on y a vu une certaine responsabilité d'intervenir pour, disons, favoriser la sérénité des débats, surtout dans le contexte de la période électorale, d'une part, mais aussi pour prévenir les citoyens des conséquences auxquelles ils s'exposent lorsqu'ils s'adonnent à ce genre de propos, de publications sur les médias sociaux, entre autres.
Merci beaucoup, Maître Michel. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Maître Patrick Michel est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, le face-à-face hier soir à TVA, 2 heures, avec un format très serré, évidemment, ce qui a donné lieu à quelques moments cacophoniques, forçant même l'animateur Pierre Bruno à dire « on va fermer les micros ». Mais quand même, il y a eu quelques échanges sur des thèmes forts. Je vous présente rapidement quelques extraits du débat. D'abord, cette prise de position entre François Legault, le premier ministre, et Éric Duhaime sur la gestion de la pandémie.
Monsieur Duhaime, moi je comprends que les citoyens étaient tannés des mesures, mais qu'un leader comme vous, pour gagner des votes, appuie pas les mesures, alors que tout le monde remet dans la même direction, vous avez tiré dans le fond de la chaloupe.
Monsieur c'est ça Legault, que vous avez fait, non, monsieur Legault, Duhaime. Je m'excuse, là,
c'est irresponsable.
Monsieur Legault, ce qui était irresponsable, c'est d'avoir géré une crise de façon non scientifique. Pouvez-vous aujourd'hui nous dire sur quelle étude scientifique vous avez fait des couvre-feux au Québec?
Alors, évidemment, c'était la question de la pandémie. Maintenant, sur la question économique, la chef libérale Dominique Anglade, qui parle d'un bilan terrible du gouvernement sortant.
Faisons la comparaison avec votre ami Doug Ford. Vous avez créé 3 fois moins d'emplois que Doug Ford dans les derniers 4 ans. 3 fois moins d'emplois.
L'important.
Alors, vous vous faites battre par Doug Ford au niveau de l'économie. Non. Vous vous faites battre par Terre-Neuve au niveau de l'énergie.
C'est
en fait, vous vous faites battre sur tous les plans.
C'est faux.
Maintenant, un des thèmes importants, celui de l'environnement, deux chefs de parti aux positions complètement extrêmes, c'est-à-dire Nano Dubois de Québec solidaire et évidemment Éric Duhaime.
Vous êtes sur une planète à part.
Non,
puis la vraie
sur
planète,
la même planète, c'est que je pense que le Québec n'est pas déconnecté de la planète.
Les enfants vont vivre, là, et c'est en train de s'en aller au yard.
Monsieur Nano
Dubois. Moi, j'ai envie qu'on en prenne soin. Monsieur Duhaime, présentez-vous comme gouverneur du Texas. Vous allez être à votre place.
Moi, Monsieur Nano Dubois, je vous insulterai jamais. Je n'irai jamais vous dire de vous présenter à Cuba, OK?
Alors, le genre de petite ligne qui marque la mémoire, peut-être. Et finalement, un échange entre le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et le premier ministre Legault sur la protection du français.
En tant que premier ministre du Québec, vous aviez le devoir de tout faire pour protéger notre langue, ce qui veut dire écouter les experts et les démographes. Les Québécois vous ont fait confiance sur la langue et vous les avez laissés tomber.
Vous pensez que la façon d'arrêter le déclin du français, c'est en empêchant les francophones d'aller au cégep en anglais. Moi, je pense que la façon d'y arriver, c'est d'augmenter le pourcentage des nouveaux arrivants qui parlent français.
Maintenant, Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, est avec nous ce matin. Bonjour, M. Duceppe.
Bonjour.
Vos premiers commentaires, vos premières réactions après ce face-à-face hier.
Moi, je crois qu'il y en a deux qui ont marqué des points. Monsieur Plamondon, qui a eu un ton respectueux envers les adversaires et une grande cohérence dans ses propositions. Et Monsieur Nadeau-Dubois, qui a été le plus punché, si je peux utiliser une expression latine. Tout le long, là, il s'est avéré agressif, mais pas déplacé. Il y en a deux qui n'ont pas marqué de points ni perdu, selon moi. Monsieur Duhaime, Madame Anglade, Et M. Legault a perdu quelques points, bien qu'il ait été excellent sa question de la pandémie. Mais il n'a pas perdu suffisamment de points pour mettre en danger sa victoire, selon moi.
On avait l'impression, puis je me rappelais des propos que vous aviez hier matin, que dans le cas de M. Legault, bon, évidemment, c'est lui qui est ciblé par les partis, c'est le premier ministre sortant. L'idée, c'était de pas faire d'erreur, de pas faire de gaffe, puis de pas se fâcher, là.
Oui, mais je pense qu'il avait l'air exaspéré souvent. Quand il plisse les lèvres, là, il avait pas l'air heureux, là. Ça avait l'air lâchalé que ce débat, dire lâchez-moi donc. Alors, c'est pas une bonne attitude. Je pense que le langage corporel n'était pas correct dans son cas. D'autre part, sur plusieurs sujets, pas seulement M. Legault, et on va voir dans les semaines qui vont suivre, parce que les jours qui vont suivre le régir, parce que ils ont mis la table pour des débats qui vont se poursuivre sur plusieurs sujets, dont celui, par exemple, de l'immigration. Au-delà des seuils, là, je pense que tous les partis passent un peu à côté du vrai problème, à savoir que l'immigration, Québec a le contrôle sur l'immigration économique, ça va de soi. C'est réglé depuis 77. La question des réfugiés, ça relève d'Ottawa et ça sera toujours ça, c'est la règle internationale, ça relève des pays. Alors, Québec n'est pas un pays, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Il y a la réunification familiale, mais plus important que ça, et on n'en parle pas, l'immigration temporaire, travailleurs temporaires et étudiants. Et ça, l'an passé, sous toute réserve, je crois que c'était 177 000 personnes. Ça, c'est énorme. C'est énorme, ça touche beaucoup nos universités et ça touche beaucoup les agriculteurs qui cherchent la main-d'œuvre. Pas que les agriculteurs, d'ailleurs, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Alors ça, j'ai été un peu déçu du fait qu'on s'attaque pas à cette question-là, à cet aspect de l'immigration.
Est-ce que vous trouvez, vous qui en avez fait des débats là à plusieurs, là, que le format est tellement serré, que c'est tellement minuté? Puis là, je fais abstraction de la cacophonie. Beaucoup d'auditeurs réagissent ce matin en disant ils ont pas le temps de s'exprimer, ils ont pas le temps d'aller faire un véritable débat.
C'est le problème avec lorsque l'on est cinq, là. Ce qui arrivait plus souvent au fédéral qu'au niveau du Québec, mais c'est le cas maintenant à Québec. Or, c'est difficile de faire autrement, mais en même temps, ça demanderait une plus grande discipline. Je trouvais qu'il manquait de discipline fréquemment hier. Les gens s'interrompaient trop souvent, ce qui permet pas d'aller au fond des questions. Et il y a eu, bien sûr, quelques lignes. Vous avez entendu M. Duhem, sa réplique était bonne à Nadeau-Dubois sur le Texas et Cuba. M. Nadeau-Dubois, il y a une bonne ligne également. M. Legault, il disait, vous êtes premier ministre du Québec, pas de Joliette. Il est tiré dans chaloupe, c'était également une bonne ligne de M. Legault. Mais on peut pas aller au fond, et ça, je pense, ça frustrait bien du monde. Et ce qui est achalant, c'est d'entendre des personnes intervenir quand ils sont pas, ils font pas partie du débat, puis ils parlent par-dessus les autres. Ça, c'est et ça aide pas les personnes qui font ça. Les gens se disent, mais voyons donc, ils pourraient-ils écouter un peu? Ça me semble normal, non?
Oui. Dites-moi, il y aura ce deuxième débat. Qu'est-ce que les chefs doivent retenir, puis qu'est-ce qu'ils doivent peut-être changer pour ce deuxième débat dans leur façon de faire, puis dans leurs propos?
J'écoutais tantôt les bulletins de nouvelles, on disait que Madame Bray, la femme de Monsieur, l'épouse de Monsieur Legault, sa conjointe, est souvent au fond de la salle lors des points de presse et lui fait signe de sourire. Yolande me faisait ça également. Je pense qu'elle va y parler puis lui dire souris donc un petit peu parce que ça va l'air frustré. Ça, il va devoir changer son langage corporel. Je pense que Monsieur Plamondon devra être plus incisif. Il était cohérent et respectueux, mais pas assez incisif. Monsieur Duhem va devoir revoir beaucoup de ses propositions parce que ça c'est punché, mais quand si on prend le temps de les analyser à fond, il y a un gros problème. Quant à Madame Anglade, je pense que c'est une personne intelligente, mais elle est prise avec un parti qui a beaucoup de difficultés au niveau de l'organisation et même de ses propositions. L'erreur de 16 milliards pour un parti qui se dit le parti de l'économie, là, c'est pas comme petite affaire, ça.
Monsieur Duceppe, merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci. Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, il a participé à 17 débats.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la presse nous dit ce matin qu'il y a un col bleu de la ville de Montréal qui est accusé d'avoir frappé à la tête un de ses collègues. Ça s'est passé au mois de juin dans les locaux du syndicat des cols bleus. Celui qui est la victime dans cette affaire s'appelle Danny Dufour. Il est avec nous ce matin. Bonjour, M. Dufour.
Bonjour, M. Arcand. Ça va bien?
Bien. Vous, d'abord, racontez-nous un peu ce qui s'est passé.
Ce qui s'est passé, il y a un contexte en arrière de ça. On va comme y aller assez brièvement.
Okay.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des documents manquants. J'ai eu des manques d'informations pour les rendez-vous. Suite à ça, j'ai appelé la vice-présidente pour qu'elle puisse faire un correctif avec ça, quand moi et Alex François. Suite à ça, ben l'altercation s'est passée, puis je me suis fait cogner là.
OK. D'abord, vous faites partie du comité de négociation.
Oui.
Monsieur François fait partie aussi du comité de négociation.
Tout à fait.
Et ce que je comprends dans ce que vous venez de dire, là, c'est que on vous aurait pas donné toute l'information nécessaire, toute l'information que quelqu'un qui fait partie de l'équipe de négo doit avoir.
Oui, tout à fait, exactement. C'était comme la réunion de B2F, j'ai été, on va dire, putché à côté. J'ai pas été informé de la réunion. Fait que ce qui est arrivé, c'est que je parais mal en m'en allant à B2F, je suis absent. Alors, c'est ce qui est arrivé.
Okay.
Ensuite de ça, j'ai appelé ma vice-présidente.
OK. Donc, il y avait une réunion de renouvellement là, pour le renouvellement de la convention collective. Bref, ils vous ont tassé.
Oui.
Pourquoi ils vous ont tassé, le savez-vous?
Non, ça, c'est la question que je me pose depuis le début. Alors, ça, c'est vraiment la grande question. Ça, vous devriez demander peut-être à M. Alex François.
Et comment ça a dégénéré avec M. François?
Sincèrement, je pourrais pas vraiment vous dire. Ça a commencé avec des documents qui étaient omis, des documents qui n'étaient pas à jour. Suite à ça, je laissais passer. Après ça, ça s'est détérioré de fil en aiguille jusqu'à l'omission de me dire qu'il y avait une réunion à B2F le lundi matin.
OK. Puis à quel moment là, c'est devenu plus que des mots là, qui vous a frappé dessus?
C'est le 21 juin au matin.
OK. Puis pourquoi? Comment c'est arrivé? Il y avait dit quelque chose? Il l'a mal pris?
Non, c'est pas comme ça. C'est que vu que j'avais appelé la vice-présidente pour caler le meeting pour dire écoute, là, pour savoir ce qui se passe, là. Suite à ça, il est arrivé en retard au meeting. Il avait le regard agressif. Il a voulu aller. Pardon. Il a voulu aller s'expliquer au tableau. Suite à ça, il m'a poigné la gorge. Il m'a cogné direct là parce que ce qu'il expliquait au tableau, c'était pas vrai. J'avais déjà les preuves, comme dans mon téléphone, j'expliquais à ma vice-présidente. Regarde Marie-Lou, c'est pas vrai ce qu'il dit. Fait que c'est là que j'ai entendu tout mon Chris, paf, 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 puis après ça, ça a été comme un black. Là.
Puis vous êtes tombé au sol ou...
Non, je suis resté debout. Suite à ça, là, c'est même moi, j'ai été surpris de rester debout. Mais, puis là, je me souviens pas de partir du 96-50 à aller au bureau principal avec mon auto. J'ai vu deux personnes au travers de toi. À ce qui paraît, j'ai eu une discussion avec ces gens-là. Je m'en souviens pas.
OK. Qu'est-ce qui fait que vous avez porté plainte? Puis là, vous êtes membre du syndicat des cols bleus. Vous faites partie du comité de négo. Habituellement, on se tient là. Puis moi, j'ai quand même un peu d'expérience pour avoir jasé avec beaucoup. Hein? Là, mon Danny ne tira pas porter plainte. Là, il va s'excuser. La prochaine réunion, tout va bien aller. Là. Ils ont dû vous dire ça, là.
Ça ressemble pas mal à ça. On va y aller plus d'une autre manière. C'est plus comme, Danny, si tu vas porter plainte à la police, tu pourras pas tirer ta plainte, tu vas regretter. L'autre personne, je sais pas, me dit, Danny, ce qui t'arrive présentement, ça arrive fréquemment. Alors, quand que ça arrive, on règle ça entre nous autres. Fait que t'as pas besoin d'appeler la police.
Qui vous dit ça? Comme.
Le président et la vice-présidente au comité. Le président du syndicat SCFP 301, Luc Bisson.
Il vous a dit ça que ça. Il a
pris. À plusieurs reprises.
Puis pourquoi vous êtes allé pareil porter plainte à la police?
Parce que justement, j'ai pas senti de support de ces gens-là. J'aurais aimé ça, on m'a fait. Écoute, dame, c'est correct, on va faire une suspension, on va. On sait que c'est toi la victime. Ça n'a pas été le cas. J'ai eu aucun support, j'ai jamais eu aucun appel pour savoir si Danny, est-ce que ça va bien de ton côté? Jamais.
OK.
Être seul dans cet événement-là, ben, écoutez, c'est pas vrai que je vais laisser ça aller, là.
Là, on en est où dans les procédures? D'abord, êtes-vous toujours membre du comité de négociation? Ils vous ont-tu mis dehors?
Pas encore.
Pas encore?
On attend la conclusion de l'enquête indépendante qu'ils ont nommée, là. Alors, suite à ça, ben, lorsque la personne aura fini son enquête, elle va donner des recommandations par rapport à ce qui s'est passé. Puis elle va déterminer voir si je suis la victime ou l'agresseur.
OK, parce que lui, il prétend que c'est vous l'agresseur?
Oui, il a essayé quand même. Oui, parce que je ne veux pas. Suite à ça, après m'avoir été porté à la clinique, ça a bien été. C'est suite après que j'ai été porté à plainte à police. Là, j'ai eu de la pression au niveau du local.
Vous êtes employé de Col Bleu, de quel arrondissement?
Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles.
OK, puis qu'est-ce que vous faites là-bas comme job?
Là-bas, je suis 162, je chauffe les camions, je vais faire la maintenance des parcs. Puis mon deuxième métier, c'est bricoleur-maçon.
OK. Puis, avez-vous l'impression que vous allez quitter votre job au comité de négo puis que vous allez retourner dans l'arrondissement?
Je crois que oui. La seule chose qui me fait vraiment de la peine dans tout ça, c'est que ce travail-là, pour moi, c'était pas vraiment un travail. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Les heures que je passais à mettre dans les conventions collectives à étudier, pour moi, c'était pas du travail. C'était pour défendre les droits des travailleurs.
OK.
Malheureusement, cette partie-là, ben là, je retourne au travail, vraiment avec un travail pas tous les matins, comme c'est ça, l'équilibre.
Comprends.
Et puis là.
Merci, M. Dufour.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir, Danny Dufour, donc, qui est membre du comité de négociation du syndicat des cols bleus de la ville de Montréal. Et il y a une accusation déposée, il y a une plainte, en tout cas, à la police, une enquête interne. Puis, je pense que ça prend pas un grand devin pour savoir qu'il y a des pressions qui sont exercées. Puis c'est vrai, chez les cols bleus, moi, j'ai vu des cas là, d'intimidation, des contremaîtres, souvent. Là, je vous parle d'une autre époque, là, quand même. Ça fait longtemps que je m'ai pas mis le nez là-dedans, là. Mais une autre époque, c'était assez classique, là, dans des garages, là, puis entourer le contremaître, puis entourer un employé. On a vu aussi des trucs assez étranges du côté de Laval, il y a quelques années. Fait que, mais habituellement, ça sort pas. Tu sais, on garde ça entre nous, puis on va régler ça à l'amiable, puis une petite tape en arrière de la tête va t'excuser, là, puis refait plus ça. Mais là, il semble que c'est tout à fait différent.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Parlons maintenant des funérailles de la reine Élisabeth II, notre envoyé spécial à Londres. Philippe Bonneville est avec nous. Il est à côté du palais de Westminster, où Philippe se déroule la chapelle ardente. Tu disais à l'équipe plus tôt ce matin que la file d'attente, c'est toujours extrêmement long pour entrer dans le bâtiment. Il y a un Québécois qui est parti, qui est arrivé dans les dernières heures, donc, à l'aéroport Heathrow, sauté dans un taxi, est allé déposer ses trucs à l'hôtel, puis il va patienter combien de temps avant de pouvoir passer devant le cercueil?
Au moins une douzaine d'heures, Paul. Incroyable. C'est complètement fou ce qui se passe ici en ce moment. C'est même, disons, plutôt difficile pour nous, Québécois, de comprendre pourquoi il y a un tel engouement ici. Pour te donner une idée, là, la file d'attente pour atteindre la chapelle ardente, elle est longue d'un peu plus de 8 kilomètres en ce moment. 8 kilomètres, c'est quand même énorme. Et le gouvernement britannique vient d'annoncer, Paul, que l'attente, elle est maintenant d'environ 14 heures. Je me trompe pas, là, 14 heures pour arriver à Westminster Hall et pour pouvoir passer à peine 3, 4, 5 secondes devant le cercueil de la reine. C'est pas mal d'attente. Disons, on parle de dizaines de milliers de personnes qui sont dans la file présentement, dont ce Québécois dont tu as parlé. Son nom, Bruno Deschaines. C'est un comptable, mais pas un comptable, disons, plate. Ça, c'est certain, Paul, parce que lui, il s'est toujours dit que lorsque la reine allait mourir, il allait être sur place à Londres pour assister à ses funérailles. Ben, il l'a fait. Il a traversé l'Atlantique en avion cette nuit, a dormi à peine une heure dans l'avion, est arrivé ici il y a quelques heures à peine, a déposé ses bagages à l'hôtel, puis immédiatement, il est allé s'installer allé au bout de la file. Je l'ai rencontré tantôt. Il est bien conscient que certains vont le trouver complètement cinglé de faire ça. Je te laisse entendre un premier extrait.
OK.
Oui, il y en a qui peuvent me trouver fou. Des collègues ou même des connaissances, des amis. Ben voyons, qu'est-ce que tu t'en vas faire là? Ça n'a pas d'allure. Il y en a d'autres, je suis pas surpris, c'est tout à fait ton genre. Étant tripeux d'histoire, je pense que c'est le fun d'être sur place, de vivre ça. C'est une occasion unique, une reine qui était là 70 ans, on n'a pas vu ça souvent. J'aime ça être là quand il y a des moments importants dans l'histoire. Évidemment, quand ça donne que je peux le faire. Je pense que c'est vraiment pour dire, j'étais là, j'ai vécu ça. Puis c'est de mettre en action un rêve. Parce que tu sais, à un moment donné, moi, je peux bien rêver de dire, ah, oh, j'aimerais ça aller là, aller là, aller là. Je vais le dire, puis je vais le faire, je vais le rendre en action.
Et ce Québécois, Paul, il est prêt à attendre toutes ces heures-là, 13, 14 heures. Il devrait atteindre Westminster Hall un peu avant l'heure du souper, heure du Québec. C'est encore loin quand même. Heureusement, pour l'instant, la météo collabore quand même assez bien. Il vente, tu l'entends, mais il fait pas trop froid. Et ce sera pas terminé pour lui, pour ce Québécois-là, parce que il a aussi l'intention d'avoir une bonne place lors des funérailles de lundi. Il va devoir se lever en pleine nuit pour ça. Je te laisse l'entendre à nouveau.
Comme là, il y a la file. C'est sûr que lundi matin, je veux aller aux funérailles. Je vais me trouver un endroit là, près de Westminster Abbey. Probablement arriver dans la nuit pour avoir un bon spot puis vivre ça. Là. Je me dis, en arrivant vraiment très, très tôt lundi, justement, je me dis, c'est d'essayer de me trouver une bonne place pour ça. C'est certain, là, je me fais pas d'illusions. Les gens qui vont regarder la télé vont mieux voir que moi. Mais d'être là, de voir passer le cortège, ça va être particulier. J'ai vraiment hâte de vivre ça.
Et là, ce Québécois-là, bon, il n'y a pas beaucoup de Québécois probablement qui sont ici sur place, mais il y a des gens de la Pologne, il y a des gens de l'Afrique que j'ai rencontrés, des gens de la Roumanie, de l'Espagne, et on s'attend à ce qu'il y ait des centaines et des centaines de milliers de personnes, possiblement jusqu'à 1 million ici, dans différents secteurs de Londres, pour assister aux funérailles via des écrans géants lundi dans la journée.
Ah, pardon. Évidemment, ça pose toute la question de la sécurité. Et ouais. Londres a mis en place des mesures là, jamais vues dans son histoire pour encadrer les funérailles, compte tenu évidemment de l'événement, mais de la présence de centaines de dignitaires.
Oui, on le sent déjà. Un dispositif de sécurité qui serait, semble-t-il, encore plus imposant, Paul, que ce qui avait été fait ici lors de la tenue des Jeux olympiques il y a quelques années. Les policiers, là, on en voit partout. Ils sont présents partout, partout. Ils sont très, très visibles. Il y a aussi des militaires déjà à plusieurs endroits. Des milliers et des milliers d'agents de sécurité de firmes privées également qui sont déployés dans tous les secteurs de la ville. Il y a des dizaines de rues qui sont fermées à la circulation déjà. Tout le centre de Londres est complètement bloqué, là. C'est presque impossible de circuler là en voiture. Un système de barrières également qui est installé pour empêcher des véhicules de foncer dans la foule. Et c'est rien probablement, ce que l'on voit présentement, là, c'est probablement rien par rapport à ce qu'on verra le jour des funérailles, parce que là, à ce moment-là, comme tu l'as dit, il y aura des dirigeants de très, très nombreux pays qui seront présents ici à Londres.
Merci beaucoup, Philippe. Et il y a quand même une délégation importante du Canada, dirigée par M. Trudeau, c'est sûr, mais les anciens premiers ministres Harper et Paul Martin, ainsi que la gouverneure générale, Michaël Jean, l'ex-gouverneur général, qui sera également présente. Un mot sur l'Ukraine, la guerre continue, mais le président Zelensky a annoncé la découverte de ce qu'on appelle une fosse commune. Plus de 400 corps, certains parlent de 433, qui auraient été découverts dans la ville de Izium, qui a été reprise, qui était donc aux mains des Russes. Et c'est dans le cadre de cette contre-offensive menée par l'Ukraine. Il y a des journalistes ukrainiens et étrangers qui vont venir sur place. Et ce qu'on vient de découvrir à Izium, on a également trouvé ce même genre, c'est horrible, là, de fosses communes dans d'autres villes. On pense à Boutcha et Mariupol.
C'est 23.